J'ai aime vos enfants.
Na 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 na
na
na na na na na na na na na na
na na.
Salut, vous êtes sur FPP 106.3 pour l'émission Zoom Écologie. Vous pouvez nous écouter sur rfpp.net. Vous pouvez nous appeler pour intervenir au 01 40 05 06 10. Aujourd'hui, on va commencer cette émission par un hommage à Sébastien Briat, tué le 7 novembre 2004 par un train de déchets nucléaires. Donc c'était un peu plus, il y a un peu plus de 5 ans. Le 7 novembre 2004, Sébastien, 22 ans, est mort à Avricourt, en Lorraine, renversé par la locomotive d'un convoi de déchets nucléaires partant vers l'Allemagne. La mort de ce jeune plein d'ardeur ne doit pas passer pour lettre morte. L'appel de Sébastien à refuser l'industrie nucléaire et ses déchets éternels dangereux pour les générations futures doit être entendu. Un rappel des faits, donc la lettre de ses compagnes et compagnons de route rédigée quelques jours après le drame. Bichon est mort pour ses convictions. Quelques semaines auparavant, il s'était décidé avec plusieurs d'entre nous à agir pour rendre publique la vulnérabilité d'un tel convoi. Le fait qu'il soit mort ne doit pas faire oublier que cette action était non violente, réfléchie et volontaire. Contrairement à ce que ce drame peut laisser transparaître, en aucun cas notre acte n'était irresponsable et désespéré. Notre engagement est le fruit de convictions profondes quant au danger certain et réel que représente le nucléaire depuis trop longtemps. Cette action était parfaitement planifiée collectivement, incluant des repérages précis des lieux et en respectant des procédures d'arrêt éprouvées. Nous avions longuement envisagé toutes les possibilités, y compris un non-arrêt du convoi. Placés en sortie de courbe, nous pouvions être amenés à quitter les rails très rapidement, du fait d'une visibilité réduite. Nous étions quatre couchés sur les voies, ayant chacun un bras passé de part et d'autre d'un tube d'acier glissé sous le rail extérieur de la voie, permettant ainsi un départ d'urgence plus rapide. En aucun cas, nous n'étions cadenassés et nous avions la possibilité de nous dégager rapidement de ces tubes.
Malheureusement, l'équipe chargée de stopper le train 1500 mètres en amont n'a pas pu agir. L'hélicoptère de surveillance précédent en permanence le convoi était absent. Parti se ravitailler en kérosène. Or, cette équipe comptait essentiellement sur sa présence qui signalait l'arrivée du train. Enfin, conformément à ce qui était convenu, les stoppeurs ont renoncé à arrêter le convoi car il était accompagné de véhicules de gendarmerie le précédent à vive allure sur le chemin les séparant de la voie. Le convoi est donc arrivé à 98 km/h selon le procureur, n'ayant pu être arrêté par les militants ni averti par l'hélicoptère. Ces multiples causes réunies nous mettaient en danger. De ce fait, les personnes couchées sur les rails n'ont bénéficié que de très peu de temps pour s'apercevoir que le train n'avait pas été stoppé et par conséquent n'avait pas réduit son allure. Nous nous étions entraînés à une évacuation d'urgence de l'ordre de quelques secondes. Sébastien a été percuté alors qu'il quittait les rails et en aucun cas son bras n'est resté bloqué à l'intérieur du tube. La vitesse de l'événement nous a dépassés et personne parmi nous n'a eu le temps de lui venir en aide.
Avant que cela n'arrive, nous sommes restés 10 heures de suite cachés en lisière de bois à 30 mètres de la voie, gelés et ankylosés par le froid. Durant cette attente, nous n'avons pas été détectés par le dispositif de sécurité, ni les guetteurs postés à une quinzaine de kilomètres du lieu de blocage et chargés de nous prévenir de l'arrivée du train. Ni les stoppeurs chargés de l'arrêter, ni les bloqueurs qui avaient préalablement installé les deux tubes sous le rail aux environs de 5 heures du matin. Il est clair que la part de responsabilité de chaque protagoniste doit être établie, y compris la nôtre. Pour l'heure, nous sommes face à l'un des pires moments de notre existence, malgré ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Nous avions des raisons certaines d'être là, en premier lieu la sauvegarde de la planète dont nous assistons au déclin d'année en année, mais également le rejet de cet état monolithique refusant toute remise en question. Nous n'avons pas décidé d'arrêter le train par maturité ou goût de l'aventure, mais parce que dans ce pays, il faut en arriver là pour qu'une question de fond entre enfin dans le magasin de porcelaine. Sébastien est mort par accident, il ne l'a pas choisi, personne ne l'a souhaité, il n'est pas mort au volant en rentrant ivre de discothèque, mais en agissant pour faire entendre ses convictions, et c'est sans conteste pour cela que son décès ne sera jamais pour nous un fait divers.
Face à une situation où nous étions si perdus, nous n'imaginions pas recevoir tant de soutien. Nous remercions particulièrement amis et parents, de nombreuses associations, mais également les milliers d'anonymes allemands et français ayant organisé des manifestations et des commémorations en sa mémoire. L'ampleur de la solidarité nous dépasse autant qu'elle nous touche. Le plus important nous semble de pleurer un frère et de soutenir sa famille et non d'instrumentaliser son image. Bichon était certes à la recherche d'un monde moins fou, mais avant tout un jeune homme rempli de joie, d'énergie et amoureux des gens. Ce texte n'est ni une confession, ni une agression. Nous voulons seulement, par celui-ci, rétablir la vérité des faits. Ses compagnes et compagnons de route.
Voilà, bah, c'était un petit hommage à Sébastien Bria. Il y a eu aussi des actions en Allemagne ce week-end. Mais bon, comme cette émission est un petit peu improvisée et imprévue, on n'a pas eu trop le temps d'aller les chercher. Bon, mais cette année, il n'y a pas eu de train de déchets de La Hague à Görlöben. Donc il y a eu un peu moins de manifestations que les autres années. Sur le nucléaire toujours, on a de nouveau une situation périlleuse à la centrale nucléaire du Tricastin. Une barre de combustible nucléaire est restée suspendue au-dessus du cœur du réacteur pour la troisième fois en quelques mois. La vétusté et la dégradation du parc nucléaire français va aboutir à des pénuries d'électricité ou à des accidents. Le réseau Sortir du nucléaire dénonce une situation périlleuse à la centrale nucléaire du Tricastin. Dans la Drôme, pour la troisième fois en quelques mois, une barre de combustible se retrouve suspendue au-dessus du cœur de réacteur, menaçant à chaque instant de se décrocher et de causer un accident nucléaire. Des situations identiques se sont produites en septembre-octobre 2008 à la centrale du Tricastin, déjà, et en août-septembre 2009 à la centrale nucléaire de Gravelines. Un seul précédent avait eu lieu dans le passé, à la centrale de Nogent en 1999. Il est stupéfiant que cette situation, aussi rarissime que dangereuse, vienne se produire à trois reprises en quelques mois, illustrant la rapide dégradation du parc nucléaire français. Les réacteurs nucléaires français vieillissants sont de plus en plus dans un état extrêmement dégradé du fait du fonctionnement en suivi de charge imposé par la présence du nucléaire dans la production française d'électricité. Les conséquences sont claires, des réacteurs de plus en plus souvent arrêtés de forts risques de pénurie d'électricité dès cet hiver, des risques plus élevés que jamais d'accidents nucléaires, voire de catastrophes. Les graves problèmes de sûreté rencontrés par le nouveau réacteur nucléaire EPR montre bien que l'option nucléaire mène la France dans une véritable impasse. Avant la pénurie d'électricité et ou l'accident nucléaire, il faut de toute urgence programmer une sortie du nucléaire la plus rapide possible et lancer dans le même temps et massivement des plans d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'était un communiqué du sortir du nucléaire. Et sur l'EPR, on a aussi eu la CRIRAD qui a publié un communiqué sur la découverte tardive d'un problème de conception.
Donc, la CRIRAD demande la constitution d'une commission d'enquête sur les conditions d'autorisation de l'EPR de Flamanville. Le lundi 2 novembre 2009, les autorités de sûreté nucléaire britanniques, finlandaises et françaises ont publié une déclaration commune pointant un grave défaut de conception dans l'EPR. Ce défaut concerne en fait le système de contrôle-commande, ce qui est plutôt inquiétant, c'est-à-dire un ensemble d'équipements matériels et informatiques qui permet de réguler le fonctionnement du réacteur. Il s'avère que ce système de contrôle en fonctionnement normal est interconnecté et de façon très complexe au système qui doit prendre le relais en cas de défaillance. Dès lors, une panne du système d'exploitation en fonctionnement normal pourrait se répercuter sur le système de secours et l'empêcher de jouer son rôle.
L'indépendance d'un système de secours vis-à-vis du système doit-il pallier le dysfonctionnement est une condition basique de la sûreté. Il s'agit d'un défaut de conception presque grossier, d'autant plus incompréhensible qu'il concerne le système de contrôle-commande, un élément majeur de la sûreté, qu'un responsable de l'autorité de sûreté nucléaire qualifie d'épine dorsale de l'installation. Comment se fait-il que cette découverte intervienne de façon aussi tardive ? Sur le site d'Olkiluoto en Finlande, le chantier de construction commence en 2005. À Flamanville, dans la Manche, les travaux ont commencé en 2006, avant même la publication en 2007 du décret d'autorisation. Lorsqu'un réacteur nucléaire est en cours de construction, c'est que les études de sûreté ont été réalisées et que la conception de l'installation a été jugée suffisamment sûre pour obtenir l'autorisation de création. Dès lors, comment se fait-il qu'un défaut majeur sur un équipement majeur, l'épine dorsale de l'installation, ait pu passer au travers ? De fait, les organismes français en charge des expertises et contrôles relatifs à la sûreté de l'EPR ont tous donné leur feu vert à un projet présenté comme une avancée importante en matière de réduction des risques d'accident. C'est notamment le cas de l'autorité sûreté nucléaire qui est intervenue tout au long du processus d'élaboration et d'autorisation de l'EPR. Rappelons que des objectifs de sûreté renforcée avaient été fixés dès 1993 par l'ASN et son homologue allemand.
Et rappelons aussi qu'en 2004, sur la base de l'examen réalisé par l'ASN avec l'appui du groupe permanent d'experts pour les réacteurs nucléaires, les pouvoirs publics ont indiqué qu'ils considéraient que les options de sûreté retenues satisfaisaient à l'objectif d'amélioration de la sûreté. Rappelons aussi que le 8 décembre 2006, après avoir analysé les dispositions prises pour prévenir les risques d'accident, la Commission interministérielle des installations nucléaires a donné un avis favorable au projet de construction de l'EPR de Flamanville. Et l'on peut encore rappeler que le 16 février 2007, l'ASN encore a remis à son tour un avis favorable sur le projet, et ce sur la base d'un examen technique conduit de 2002 à 2006, en parallèle à l'élaboration du rapport de sûreté par AERVA et EDF. L'avis de l'ASN ne mentionne aucune réserve et souligne au contraire que l'EPR de Flamanville, je cite, « a bénéficié d'un examen beaucoup plus large et plus profond que précédemment réalisé sur les réacteurs électronucléaires ».
L'instruction du dossier EPR par les organismes de contrôle a donc duré des années et l'autorisation de création a été délivrée par décret en date du 10 avril 2007, sur la base du résultat favorable de ces différentes expertises. Dès lors, comment se fait-il que le problème soit mis en évidence aussi tard et peut être même à l'initiative de l'autorité de sûreté nucléaire britannique ? La CRIRAT demande qu'une commission d'enquête soit mise en place afin de déterminer pourquoi aucune des études effectuées par les experts français n'a permis d'identifier un défaut de conception grossier, affectant qui plus est un élément essentiel de l'installation. Il faut réexaminer les études de sûreté du système contrôle-commande qui figuraient dans les dossiers validés par les organismes de contrôle, déterminer pourquoi le dysfonctionnement n'a pas été repéré. S'agit-il d'un problème de compétence, de méthodologie, de procédure ? Compte tenu des enjeux économiques, des pressions ont-elles été exercées sur l'ASN afin d'obtenir un avis favorable en renvoyant à plus tard la résolution des problèmes ? Le réacteur comporte-t-il d'autres défauts de conception mettant en cause sa sûreté ? Faut-il confier à des experts extérieurs un réexamen exhaustif des éléments de sûreté afin de vérifier si d'autres détails de conception n'ont pas été négligés ? Par ailleurs, la déclaration commune des autorités de sûreté nucléaire britanniques, finlandaises et françaises suggère qu'elles ont découvert le problème simultanément et chacune de leur côté. Cela paraît peu probable et demande en tout cas à être vérifié sur la base d'une chronologie fine des expertises et des échanges entre les différents organismes. Lorsque la déclaration indique que l'autorité de sûreté nucléaire britannique et française et l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise examinent actuellement la sûreté du réacteur nucléaire, il est utile de rappeler que l'ASN est censée avoir effectué ce travail préalablement à l'autorisation de création délivrée en 2007 par les autorités françaises, alors que l'autorité britannique est en la phase d'étude préalable à la demande présentée par EDF et AERVA pour être autorisée à construire 4 EPR au Royaume-Uni.
Alors, quant à la responsabilité particulière d'AERVA, eh bien, il faut savoir que les questions relatives à l'efficacité des contrôles ne dispensent pas le concepteur de l'EPR, donc AERVA, de répondre de ses responsabilités propres. Dans sa mise au point sur la communication des autorités de sûreté, le groupe AERVA affirme « La sûreté du réacteur EPR n'est pas mise en cause et AERVA travaille actuellement avec les autorités de chaque pays afin d'apporter des adaptations qui répondent aux exigences locales. C'est un flagrant délit de mauvaise foi. Le défaut de conception du système de sûreté du réacteur ne relève pas d'ajustement à des demandes locales. Il s'agit d'un élément clé pour la sûreté de l'installation. Pour preuve d'ailleurs, le fait que les autorités de sûreté nucléaire de 3 États aient jugé nécessaire de faire sur le sujet une déclaration publique commune. La commission d'enquête doit également s'assurer qu'AERVA prenne le problème plus au sérieux que ne l'indiquent ses déclarations publiques. Ainsi que le rappelle AERVA dans son communiqué, l'EPR est actuellement le réacteur le plus puissant au monde, ou du moins le sera dès lors qu'il sera mis en service. Des défauts de conception dans des éléments essentiels pour la sûreté ne sont pas acceptables.
Voilà, bah c'était un communiqué de la CRIRAD et il y a des documents cités en référence. Donc c'est les déclarations communes des autorités de sûreté nucléaire, un communiqué d'AERVA, le décret autorisant la création de l'EPR EDF et des avis de l'ASN. Donc pour plus d'infos, allez sur le site de la CRIRAD. On va en reparler, je crois, d'ailleurs, de la CRIRAT sur l'irradiation des aliments.
Oui, j'en parle. Alors, donc, j'ai une petite info donc, sur l'irradiation des aliments. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, c'est Élise, je n'ai pas eu le temps de me présenter. L'irradiation des aliments suscite donc l'intérêt d'un collectif d'associations donc qui s'est réuni. Donc on retrouve notamment dans ce collectif Action Consommation, Agir pour l'environnement, les Amis de la Terre, et ils organisent une conférence et un point presse pour exposer les enjeux de l'irradiation des aliments le 26 novembre. Alors, irradiation des aliments, donc ça veut, en fait, ça signifie une technologie nucléaire qui est utilisée par l'industrie agroalimentaire et qui est souvent présentée comme moins nocif que d'autres modes de conservation ou de décontamination. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il existe des risques sanitaires, environnementaux et sociaux qui ne prennent pas en compte les avis sanitaires officiels. Et l'on voit souvent l'irradiation. Sur les produits de consommation prend le nom de ionisation. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne sait plus trop...
Ça fait moins peur, ouais.
Voilà, c'est vrai que ça fait moins peur. On voit ionisation sur plein de produits. Je vois ça, je me dis tiens... Et en fait, derrière la ionisation se cache le terme d'irradiation.
La bouffe irradiée, ouais.
Voilà. Donc les réglementations sont ambiguës et diffèrent d'une zone géographique à l'autre dans le monde entier. Donc, en ce qui concerne la France, les contrôles sont rares ou quasi inexistants. Et les volumes de produits irradiés, effectivement commercialisés et consommés, sont largement inconnus. En réalité, les avis officiels s'appuient sur des travaux au sein de l'ONU, sous l'influence de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cela correspond à un accord entre l'OMS et l'AIEA, qui rend de facto cette dernière juge et partie dans le dossier. Un accord similaire entre la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, et de l'AIEA, ont pu se développer des technologies incitant par irradiation la mutation de semences, parallèlement à la conduite des recherches de manipulation génétique, introduisant des séquences de GEM étrangers, donc OGM. En ce qui concerne l'irradiation des aliments, les techniques de mutation par irradiation produisent des effets biologiques dont l'innocuité pour l'alimentation n'est pas clairement démontrée. Et cela représente également des risques environnementaux et sociaux. Donc je vous invite donc à assister à la conférence et au point presse qui aura lieu le 26 novembre. Et donc, il y aura de nombreux invités. Peut-être tu peux nous les présenter,
Donc, il y aura Roland Desbordes, physicien et président de la CRIRAD, Thierry Folliard, ingénieur naturopathe et co-animateur du collectif français contre l'irradiation des aliments, Guy Kassler, porte-parole de Nature et Progrès, Hervé Lemeur, président d'OGM Angers. Et donc, il y a un mail, c'est info@irradiation-aliments.org. Un téléphone 01 48 05 86 81 01 48 05 86 81 et c'est jeudi 26 novembre à 15h et ce sera à la mairie du 2e 8 rue de la Banque. Et maintenant on va faire une petite pause de musique et on va revenir pour parler d'OGM.
Voilà, avec notre invité Thierry.
Je lève la tête, escrute l'horizon. Rien de bord de mon champ de vision. Yeah. T'adviendra de nos beaux jours. Est-ce le point de non-retour? Un déclin que semble être sans recours. Il faut qu'on soit clair. Supprimer les centrales nucléaires. Les remplacer par des système solaire pour protéger les enfants de la terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec la fée kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Wow, yeah. Quand je vois sans sale autodestruction. Je déplore l'homme du Cro-Magnon. Faut que j'arrête le train. Le sève l'antime. Centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec la fée kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Ouais, yeah. C'est le pouvoir au mépris de la vie. Semble en faire fi. Wow, wow. C'est ni toi ni moi qui avons fait le choix de ce grand fauteur désarroi. Wow. On peut plus se taire, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Wow, wow. Faut maintenant arrêter de polluer afin de préserver l'humanité. Faut maintenant arrêter d'empoisonner. Oh là là là, on peut plus supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par les solaires pour protéger.
C'est Zoom Écologie. On vient d'entendre le commandant Simi Hall, nucléaire. Donc en fait, ça, c'est une chanson qui avait été écrite en hommage justement à Sébastien Bria. Et on a la technique, une petite info. On vient de parler d'aliments irradiés. Il y aura au Salon Marjolaine une conférence donc justement sur les aliments irradiés. C'est le samedi 14 novembre et le dimanche 15 novembre, 11h30 et 17h30.
Et donc, on continue sur les OGM avec donc un procès de 58 faucheurs qui aura lieu à Versailles, donc les 18, 19 et 20 novembre prochains. Donc, on a avec nous Thierry. Donc,
bonjour.
Salut Thierry. Donc, tu fais partie des 58 faucheurs qui vont passer devant la cour d'appel à Versailles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand a eu lieu le premier fauchage? Comment ça s'est passé?
Alors, ce procès fait suite à un fauchage, enfin, fait suite à un premier procès qui a déjà eu lieu. Et le fauchage s'est déroulé donc en août 2007 en Eure-et-Loire, sur la commune de Pointville, donc en plein centre de la Beauce, où nous sommes allés à 58 faucher un champ de maïs OGM appartenant à Monsanto. Et donc, suite à ce fauchage, où lorsque nous sommes arrivés sur la parcelle, il y avait déjà les gendarmes, nous avons donc été mis en garde à vue, et suite à ça, nous avons été convoqués au tribunal. Donc, nous avons été convoqués au tribunal juste avant le fameux Grenelle de l'environnement. Donc, le procureur, lors de cette séance, a demandé le report du procès, parce qu'il estimait que le Grenelle allait peut-être apporter des éléments nouveaux. Donc, que le tribunal pourrait prendre en compte. Donc, le procès a été reporté au printemps suivant. Et donc, en avril 2008, nous sommes passés donc, au tribunal de Chartres, où nous avons été relaxés.
D'accord. Et donc, le tribunal a pris en compte le Grenelle de l'environnement? Ou qu'est-ce qu'à ton avis, le tribunal a pris en compte pour vous relaxer? C'est l'état de nécessité.
Oui, en fait, après, dans les attendus, d'ailleurs, vous pouvez trouver les attendus sur le site Yvelines sans OGM. Donc, les attendus sont très, très intéressants. Hein. C'est un bon argumentaire contre les OGM. Donc, en effet, le tribunal a reconnu l'état de nécessité en disant qu'en fait, que nous avions agi devant un danger imminent. Donc, nous étions en droit d'agir, enfin, d'enfreindre la loi pour protéger en fait on va dire la propriété collective plutôt que la propriété privée. Oui, le Grenelle a dû jouer un rôle, mais c'est aussi toutes ces années de lutte contre les OGM et surtout le mouvement anti-OGM en général et les faucheurs en particulier ont aussi, on va dire, acquis une certaine expertise. Et ce procès à Chartres a été très riche avec les témoignages où on a déroulé un peu comment se passaient les demandes d'autorisation, dans quel contexte se passaient ces essais, et où on a démontré que... En effet, il ne contrôlait pas grand-chose et que le risque était vraiment présent.
Et donc là, vous allez être 58, donc au tribunal de Versailles en appel. Et donc là, donc tout le monde espère que le tribunal va justement confirmer la relaxe.
Oui, parce que de toute façon, si les faucheurs vont devant le tribunal, c'est parce qu'ils espèrent être relaxés. Hein. Les faucheurs ne sont pas des martyrs, donc on n'y va pas pour être condamné pour finir en prison. Donc lorsqu'on agit en désobéissance civique comme nous le faisons, c'est en effet pour nous agissons en plein jour à visage découvert, nous revendiquons les actions. C'est aussi pour se retrouver devant les tribunaux pour essayer de créer du droit, on va dire. Lorsque les législateurs le font pas, nous on essaye de le faire par le biais de la justice. Enfin la justice devant les tribunaux, puis aussi bien sûr en créant des rapports de force. De façon plus globale, mais là en effet il y a déjà eu des relax, hein. il y a déjà eu avant la nôtre, il y a eu les 49 d'Orléans qui ont été relaxés, il y a eu aussi les 9 Guyon-Court qui ont été relaxés déjà à Versailles, mais après il y a toujours eu en appel des condamnations, et là on espère bien être relaxé en appel, ce qui voudrait dire que ça ferait vraiment un précédent et que en fait, le principe de précaution et le fait d'agir en état de nécessité serait vraiment reconnu. Et donc, ce qui mettrait vraiment mal l'industrie des OGM pour implanter les OGM en France et plus largement en Europe. Et
d'ailleurs, tu parles de l'industrie des OGM mise à mal, mais au niveau de l'actualité des OGM, il me semble qu'il y a ce qu'on appelle les OGM cachés. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit mot.
Oui, c'est-à-dire que il y a déjà quelques temps, en fait, tout à l'heure, là, vous avez annoncé Guy Kessler là, sur une conférence. Donc, Guy Kessler fait partie des gens qui nous ont alertés il y a déjà un ou deux ans sur le problème des ce qu'on appelle les OGM cachés. Alors, un OGM caché, c'est un OGM qui par définition est un OGM d'après l'Europe, mais qui ne rentre pas dans la réglementation des OGM. Alors déjà que la réglementation est quand même très très légère sur les OGM, là, un OGM caché, c'est d'après la réglementation européenne, c'est une plante normale, quoi. Alors tout ça parce qu'on n'est plus dans le cadre de la transgénèse, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas un gène extérieur dans une plante, mais on l'a fait muter, donc soit par irradiation.
Voilà, c'est ça, on revient sur l'irradiation.
Voilà, il y a un lien, bien sûr. Alors, si irradiation, choc chimique, enfin, voilà, on fait subir des chocs à la plante pour qu'elle puisse muter de façon accélérée. Donc, au départ, ça se faisait un peu comme ça, au hasard, quoi. On lui balançait des trucs et puis on voyait ce que ça donnait. Et puis, s'il y avait un moment, un caractère qui pouvait intéresser les industriels... On sélectionnait cette plante et on la dupliquait, on la clonait pour en faire des variétés. Enfin, c'est même plus des variétés parce que le mot variété veut dire. Enfin, il y a la diversité. Là c'est des clones, hein, qu'on fabrique. Donc voilà, des plantes industrielles, on va dire. Et donc petit à petit, ça s'est affiné. Aujourd'hui, ils font la mutagénèse dirigée, c'est-à-dire qu'on sait comment, ils savent, hein, comment choquer, on va dire, la plante pour la faire aller dans un sens désiré. Et donc là, cet été, en fait, il y a eu, au printemps dernier, il y a eu la présentation dans le sud de deux tournesols mutés. Ce sont des tournesols qui sont des tournesols, ce qu'on appelle les pesticides, c'est-à-dire qui résistent à des désherbants totaux. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vous semez votre tournesol et vous pouvez passer votre désherbant, donc ça tue tout sauf sauf le tournesol.
Comme
les OGM.
Comme les sojas.
Voilà. Donc on reste vraiment dans le même schéma que les OGM, sauf que là, il n'y a pas de demande d'autorisation particulière. Donc, c'est une plante d'après le règlement, la réglementation européenne. C'est un OGM en définition, mais elle sort complètement de la réglementation. Donc, ce qui pose quand même problème. Ce qui va poser problème, parce qu'on ne sait pas non plus trop où ça va être. Et on retrouve les mêmes problèmes, hein, parce que ça peut être, il peut y avoir les mêmes problèmes environnementaux d'une plante d'un gène qui peut devenir dominant et donc qui peut prendre le dessus sur les autres. Et puis il y a les mêmes problèmes aussi, on va dire, socio-économiques autour de la privatisation de ces plantes.
Privatisation du vivant.
Voilà. Donc le but ultime, hein, c'est bien sûr de poser des brevets sur ces plantes et avec l'objectif d'empêcher les paysans de pouvoir garder une partie de leur récolte et de la ressemer. Donc c'est obliger les paysans à racheter tous les ans leurs semences pour bien sûr alimenter le marché, quoi.
Et c'est un contrôle de la production alimentaire aussi par les firmes.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on parle de Monsanto, il n'y a pas que Monsanto, mais Monsanto par exemple,
Bayer, BASF,
voilà. Il y a même en France l'Imagrin, qu'on connaît moins,
L'Imagrin, ouais.
Qui est au départ une coopérative agricole qui est devenue multinationale. Mais Monsanto rachète, donc ils développent leurs propres plantes, mais ils rachètent aussi plein de petits semenciers pour essayer de les neutraliser. Donc en fait, le but en effet, c'est d'avoir le contrôle total sur les semences. Donc ce qui implique, enfin on parle aussi d'armes alimentaires. Et donc il y avait l'arme nucléaire et maintenant on a l'arme alimentaire Une firme comme Monsanto pourrait être à terme capable de mettre à genoux un État, voire des continents entiers.
Okay. Et d'ailleurs, pour revenir sur le procès des faucheurs, qui aura lieu donc les 18, 19 et 20 novembre à Versailles, on peut retrouver donc trois journées sur le thème de l'alternative alimentaire. Donc le 18... à Versailles, au Centre 8, aura lieu une journée d'information sur l'actualité sur les OGM. Donc là, on aura notamment un point sur les OGM cultivés, les OGM autorisés et les OGM en cours d'autorisation, avec Anne Furet, donc, qui est membre d'Info OGM, et Michel Dupont, qui est assistant parlementaire européen de l'ex-star José Bové.
Et qui a été aussi très très longtemps animateur à la Confédération paysanne sur la question des OGM et qui a fait un énorme boulot au moment du projet de loi. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise très très bien la question des OGM.
Donc il la maîtrise toujours et je sais qu'il soutient encore, même si on n'en entend pas vraiment parler, il soutient encore vraiment les paysans. J'ai entendu justement, il y a quelques temps, quand on entendait parler des problèmes par rapport au lait. Donc il avait entamé un jeûne de solidarité avec les paysans. Donc vous pourrez venir vous informer sur l'actualité sur les OGM le mercredi 18, sur tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation. Donc ce sera le jeudi 19. Et enfin, il y aura une troisième journée le 20 novembre, donc là qui aura pour thème la désobéissance civile. Et donc là, je vous invite tous, pour soutenir les faucheurs, à une grande marche d'accompagnement des prévenus. Donc des prévenus qui nous viennent vraiment des quatre coins de la France, Vendée, Bretagne, Corrèze. Donc à 13h le mercredi 18. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations, comme le disait, je ne sais plus si c'est Cyril ou Thierry, sur le site Yvelines sans OGM. Ouvaton.org.
Je sais pas en fait si tu voulais nous en parler directement d'un nouvel étiquetage sans OGM. Ah, il n'a pas le micro devant lui, c'est pas grave. Bref, pendant qu'on est sur les OGM, la projection de Food INC, donc toujours au Salon Marjolaine, c'est le samedi 14 novembre à 11h30. L'autorisation au Canada, du gouvernement canadien, d'un OGM Monsanto avec 8 gènes modifiés. On a la Commission européenne qui vient d'autoriser la validation de la commercialisation de 3 OGM. Donc c'est le MON 89034, le MON 98017. Et avec tout ça, d'ailleurs, on oublie même de savoir ce que c'est c'est quoi, du riz, du blé, du... Allez, envoie un peu de musique.
On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial. Donnez-nous du vrai, et pas l'artificiel. On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial.
Brûlure acoustique, intoxication musiculaire, inflammation du tympan, le diagnostic est clair. Surconsommation, chanteur en bois et en plastique. J'adore le chimique. Pour tout ce prix d'aigu, variéton musique au boulémie. Pour ceux qui en cachette, matent les clips de Laurie. Pas le choix, faut se mettre à la diète. Boycott, voici la recette. Mais attention à la chute, un as et ça repart. Un truc qui te fera danser dans les boîtes et les bars. Le jour où t'as le blues, t'es pas bien, t'en as marre, tu fais
chihuahua.
Et ça redémarre. Du congelé réchauffé, chaque été vite servi. Efficace comme les bonnes idées de Marie. Une chorégraphie simple, par quatre bons bien sexy. Désolé, j'aime la dinde, mais pas dans ma vie.
Donnez-nous du vrai, et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial. Donnez-nous du vrai, et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial.
On est devenus des consommateurs génétiquement modifiés. Combat d'expérience scientifiquement élaborée. Après des manipulations transgéniques multiples, voilà qu'on se met à aimer la nouvelle pop star académique. On se met à regarder son dernier clip en boucle, en secret, pour pas se faire chambrer, parce que c'est la honte quand même. Et même si c'est indigeste, même si c'est dégueulasse, avec un bon McDo et un verre de coca, ça passe. Et allongé dans notre canapé, on n'en perd pas une miette. On crie au scandale, mais pas question de changer de chaîne un peu. Comme quand on se met à mater l'île de la tentation un peu. Comme à l'époque d'Hélène et les garçons, mais bon, élevé à la soupe chimique et à la merde en grain. On nous gave, on nous conditionne, on nous engraine. Et même le consommateur plus averti se laisse mettre en boîte.
Mais c'est de la merde.
Ouais, mais c'est ça qui tourne en boîte.
Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial. Donnez-nous du vrai et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal et pas du commercial.
S'il fallait ingurgiter ce qui nous serve sur TF1, y'a longtemps que j'aurais entamé une grève de la faim. C'est pas je vais faire mon difficile, mon blasé, ma fine bouche. Mais ras-le-bol de leur soupe industrielle servie à la louche. De leur yaourt indigeste à dégueuler dans les chiottes. De leur nouvelle star en top fabriquée dans un loft. Faudrait que José Bové à la high school vienne nous aider. Les artistes OGM mettent notre santé en danger.
Je veux l'artisanal, du bon pain au son à l'ancienne. Pas comme c'est du popcorn qu'on nous fabrique à la chaîne. Dans impérissable, à ne pas conserver plus de 3 semaines. C'est les Kleenex, t'achètes tout, t'écoutes et tu jettes. Emmenez-moi au bout de la terre, sur une île déserte. Pas de filles en bikini, pas de caméraman. Seul, avec mon Walkman, avec mes disques de Bob Marley, d'Aznavour et Réam.
Donnez-nous du vrai, et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial. Donnez-nous du vrai, et pas de l'artificiel. On veut du fat, du frais, et pas de l'industriel. On veut du sain, du ça, du produit naturel, du bio, du halal, et pas du commercial.
Et voilà, FPP 106.3 Zoom Écologie. Et Johan, qui m'a fait passer quelques petites infos, va peut-être nous donner un petit peu plus de précision.
Oui, il y a quelques petites infos qui passent actuellement sur les réseaux, et notamment le nouveau seuil recommandé par le HCB, seuil de 0,1%. Qui est en cours de discussion et qui va sûrement faire parler beaucoup de lui. La projection au Salon Marjolaine de Food INC, ce samedi 14 novembre à 11h30. L'autorisation du Smart Tax, un OGM Monsanto avec 8 gènes modifiés qui correspond à 2 gènes pour, comme herbicide et 6 gènes comme pesticide, apparemment autorisés par le gouvernement canadien, sans trop de vérification. Aussi, nouvelles, d'autres informations sur l'achat de terres qui continue dans des différents pays par les multinationales. C'est quelque chose d'assez énorme. On a parlé des OGM cachés, c'est un gros problème actuellement. Une petite info pour l'avenir aussi concernant les futurs agrocarburants. Des chercheurs sont en train d'étudier une nouvelle possibilité qui toucherait une bactérie transformée proche de la tuberculose qui pourrait fabriquer des nouveaux biocarburants transformables en biodiesel. Bon, le problème, c'est que c'est proche de la tuberculose, donc on ne sait pas trop où ça peut nous mener. Et enfin, la fameuse validation à prendre avec des pincettes, bien sûr, par la Commission européenne. On ne sait jamais trop comment la prendre, cette information. C'est toujours très, très flou au niveau européen. 3 OGM, donc les 2 de chez Monsanto, le 89034 et le 88017, je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi ça correspond. Et un pionnier, Overseas Corporation, le 59122 NK603. Si vous arrivez à vous rappeler de cette nomenclature, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Voilà. Pour les petites infos qui circulent sur le net.
Eh ben merci. NK, combien ? NK 600, machin ? Ah, ça donne faim. Hein.
Après le mot 810, le NK 603.
Donc on est toujours sur les OGM. Là, j'avais une petite info. Donc il y a Xavier Mathieu qui est délégué, il me semble, si je me trompe pas sur le titre, délégué CGT des Conti, qui a été sollicité par Ciné Hebdo pour être rédacteur en chef. Et Xavier Mathieu a donc contacté l'association Yvelines sans OGM, qui organise les événements en marge du procès, donc toutes les conférences, débats, projections, et la soirée festive qui clôturera tout ça le vendredi soir, avec d'ailleurs comme groupe Nouhou, Guillaume Tousseul et Loulou Green. Donc Xavier Mathieu a contacté cet asso pour qu'elle fasse un petit papier sur le procès et sur ses enjeux. Donc tout ça, c'est à surveiller, ça devrait arriver dans pas longtemps chez votre marchand de journaux. Donc alors Thierry, en ce qui concerne les perspectives de lutte, par rapport aux OGM.
J'avais juste un petit mot à rajouter par rapport à Yvelines sans OGM. Je voudrais quand même signaler l'énorme boulot que fait cette association, quand même, parce que on parle des faucheurs, parce que bon, c'est vrai que c'est plus visible, c'est les gens qui vont faucher, qui se retrouvent devant les tribunaux. Mais derrière, à chaque fois, lorsqu'il y a des procès, il y a des comités de soutien qui se mettent en place, il y a des associations qui se créent pour justement mettre en place des conférences, des débats en marge de ces procès. Et c'est un boulot énorme. Et voilà, donc je tiens à les remercier, parce que c'est quand même, c'est plutôt un boulot dans l'ombre, mais qui est nécessaire, et sans ces comités de soutien, les faucheurs n'existeraient pas, donc ça forme un tout. Hein. Et donc, sur les perspectives un peu de lutte, donc au niveau des faucheurs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a la question des OGM cachés, donc je pense que les défaucheurs continueront à faire des actions de désobéissance civique. Il y a aussi le problème, on n'en parle pas assez à mon avis, c'est la question des importations, parce qu'aujourd'hui, quasiment la totalité des élevages industriels, que ce soit de porc, de poulet, des vaches, tout ça, sont nourris avec du soja transgénique qui arrive d'outre-Atlantique.
Donc, d'Argentine, beaucoup.
Beaucoup d'Argentine. Il y a par exemple un pays comme le Paraguay qui voit 60% de ses surfaces cultivées en soja transgénique. Donc voilà, ce qui met vraiment à mal la petite paysannerie, les cultures vivrières. Et donc on parle beaucoup aussi de souveraineté alimentaire. Derrière toutes ces questions d'OGM, c'est ces questions aussi de souveraineté alimentaire, parce que c'est les OGM, mais c'est aussi tout un système industriel. Qui existe depuis bien avant les OGM. Hein. Déjà, les hybrides donnaient déjà un peu le ton. Donc en fait, par rapport à tout ça, par rapport à la privatisation des semences, il y a aussi un petit collectif qui deviendra grand, j'espère, qui s'appelle les semeurs volontaires, qui s'est créé et qui a pour but de faire circuler un peu les semences, de se battre contre cette privatisation du vivant qui passe par, en France, par un catalogue officiel où les plantes, en fait, pour être inscrites, doivent répondre à des critères justement qui sont les critères d'une agriculture productiviste. Donc les plantes doivent être stables, homogènes et tout le tralala. Donc voilà, pour cultiver la biodiversité dans les champs, ce collectif s'est créé pour semer la biodiversité. Et ce qui est intéressant aussi dans les trois jours qui vont avoir lieu à Versailles, là, c'est la journée sur la relocalisation de l'agriculture, parce que la lutte contre ce système passe aussi par des alternatives, et donc la mise en place, le soutien à une agriculture paysanne, à des initiatives. Sur Paris, il y a les AMAP qui marchent très très bien, mais il peut y avoir aussi d'autres modes de production, de distribution. Et donc c'est important aussi de se tenir au courant et de s'impliquer dans ces initiatives.
Il y a aussi des jardins familiaux partagés.
Oui, jardin.
C'est un système, peut-être tu peux nous en parler un petit peu.
Bah, alors d'une part, c'est un double intérêt, parce qu'en effet, ça fait prendre conscience des problèmes d'agriculture. En plus, ça crée, moi je suis sur Montreuil, là il y a une initiative, c'est pas facile à mettre en place, mais qui a le mérite d'exister, qui se situe sur une dalle d'un bâtiment. Enfin, la dalle à Naharen, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Montreuil. C'est la dalle qui est sur le décathlon, la porte de Montreuil, où il y a un jardin partagé qui a été mis en place avec une association de femmes maliennes. Sur Montreuil aussi, par exemple, il y a le Sens de l'Humus qui fait un travail sur l'agriculture urbaine. Donc c'est expérimenter des modes de culture qui pourraient permettre notamment de s'alimenter, d'avoir une production de proximité même en zone urbaine. Et puis surtout, je pense que c'est très important que les gens prennent conscience de la problématique de l'agriculture. C'est quand même la base de la vie, et que souvent on est soit on est complètement déconnecté, justement on est dans le hors-sol par rapport à ces questions-là, soit on est aussi parfois dans des visions qu'on est urbain, dans des visions un peu romantiques de l'agriculture.
Donc bah, peut-être on va répéter les dates. Ouais, du procès, je te laisse.
Alors le procès, oui, c'est donc 18, 19, 20 novembre, donc mercredi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine. Voilà, donc ça commence à 10h le mercredi 18, pour se terminer le vendredi soir par la soirée musicale où ce sera convivial, et après trois jours de procès, je pense qu'on sera content un peu de se détendre.
Ouais, et surtout, j'ai oublié une chose très importante, c'est que lors de ce procès, et actuellement au salon Marjolaine, vous pourrez découvrir et savourer la bière des Faucheurs Île-de-France.
Donc, une bière bio locale.
Voilà, une bière bio locale qui nous vient de Gambais. Donc c'est pas loin de Rambouillet. Donc est-ce que tu as eu l'occasion de la savourer ?
Hélas, moi je bois pas de bière, mais d'après les experts, elle est très 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 bonne.
Voilà, donc vous pourrez goûter la bière des Faucheurs.
C'est une cuvée spéciale.
Ah, c'est une cuvée spéciale.
Avec une très très belle étiquette, donc en plus c'est collector. Donc,
bouteille collector. Donc là, qui se trouve au Salon Marjolaine, où d'ailleurs il y a aussi un stand, il me semble, du collectif anti-OGM Île-de-France.
Oui, c'est-à-dire que cette année, Nature et Progrès, donc qui est l'organisation qui chapeaute le salon, met à disposition un espace sur son café écolo pour qu'on puisse justement un peu parler de ce procès et des enjeux qu'il y a autour des OGM.
D'accord.
Donc vous pouvez passer tous les jours, vous pourrez prendre de la bière, mais aussi acheter quelques t-shirts et puis surtout prendre de l'info.
Et le Salon Marjolaine se tient jusqu'à...
Jusqu'à dimanche prochain, là, c'est 14 ou 15.
Et c'est au parc
floral. Parc floral à Vincennes.
D'accord.
L'émission touche à sa fin. On va mettre un peu de musique. On vous dit peut-être à la semaine prochaine, puisque la radio déménage. Et on n'est pas encore complètement sûr que l'émission aura lieu la semaine prochaine. Voilà, peut-être plus d'infos bientôt. On remercie Thierry.
Merci beaucoup Thierry.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour le procès. Peut-être que tu pourras venir lors d'une autre émission pour nous dire peut-être comment ça s'est passé, quel est le résultat, quel est le jugement.
On n'a jamais les jugements tout de suite, hein, c'est toujours mis en délibéré. Ça prend environ 2 mois, donc je pense que là, ça nous emmène après en janvier. D'accord. Et c'est vraiment dommage que les salles d'audience ne soient pas plus grandes, parce que ce sont des moments vraiment... où on apprend vraiment plein de choses avec tous les témoins ou sur ces questions-là. Donc peut-être qu'un jour, justement, on arrivera, parce qu'on le demande à chaque fois, à ce que les procès soient filmés, retransmis dans des salles plus grandes pour que le plus grand nombre puisse y assister.
Ça, je crois que ça se fait rarement, il me semble.
Ouais, c'est vraiment très, très exceptionnel, oui.
Ouais, sinon, il faut compter sur les présents pour prendre des notes. Et peut-être qu'on pourra retrouver tout ça sur le site internet d'Yvelines sans OGM après le procès.
Donc c'est Yvelines sans OGM tout attaché .ouvaton.org. Et à bientôt. Salut.
Salut.
Ne laisse pas de place pour la qualité. Pas de pitié sur le marché. L'économie doit tout d'abord.